RFI Matin. Le reportage international de ce dimanche 13 avril 2025 dans le nord de l'Irak. Là-bas, les derniers mois ont été largement consacrés à la reconstruction des bâtiments historiques et parmi eux, plusieurs églises détruites par l'État islamique, mais aussi lors de l'offensive pour libérer la ville. Seulement, leur seule reconstruction ne suffit pas pour leur redonner vie. On estime que 90% des chrétiens de la ville ne sont pas rentrés après la fin de la guerre contre le groupe terroriste. C'est un reportage de Marie-Charlotte Roupy.
Dans la vieille ville de Mossoul, le quartier chrétien historique n'en a plus que le nom. Mahmoud est propriétaire d'une échoppe ici, lui est sunnite, mais il regrette la vie du quartier avant l'arrivée de l'État islamique.
Leur maison était dans ce quartier-là. Avant, il y avait beaucoup de chrétiens, mais maintenant, ils sont très peu nombreux. Avant Daesh, la situation était très bonne ici. Les musulmans, avec les chrétiens, c'était une seule maison pour tous.
Seule une trentaine de familles chrétiennes seraient rentrées depuis la chute de l'État islamique. Elles étaient plus de 1200 avant 2014. Pourtant, depuis 6 ans, le patrimoine chrétien détruit se relève progressivement avec l'aide d'organisations internationales. Le père Najib Moussa Mikhaël, archevêque de Mossoul, y voit un espoir de faire revivre la communauté chrétienne.
C'est important de préparer un lieu avant que les gens viennent. Ce sont des symboles qui encouragent les gens à retourner et qui leur donnent la confiance.
Mais le père Najib est très conscient que la reconstruction de ces lieux de culte ne suffit pas.
Quand ils commencent à rentrer, ils n'ont plus d'emploi. Leur place a été occupée par d'autres. Donc aujourd'hui, c'est le travail du gouvernement d'avoir aussi la possibilité de vivre et aussi la reconstruction de leur maison. 80% des maisons des chrétiens sont par terre. Et donc, ils préfèrent de rester à Erbil ou à Duhok ou dans le nord. Au fait, une question de confiance. Beaucoup de familles disent, tous les 10 ans, 20 ans, on recommence de nouveau à zéro.
Une partie de cette communauté a trouvé refuge à 80 km de Mossoul, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Soucy est installée dans le quartier chrétien d'Ain Kawa. Elle a fui en 2013 un climat de violence qui ne cessait de se dégrader, selon elle, à la suite du renversement de Saddam Hussein.
À partir de 2003, beaucoup de pression ont été exercées contre les chrétiens, on était menacés. Et la violence a augmenté sous plein d'aspects. Il y avait des kidnappings, des meurtres et des menaces.
Pendant 10 ans, elle a porté le hijab à l'extérieur pour éviter d'attirer l'attention, avant de tout abandonner juste avant l'entrée de l'État islamique dans Mossoul. Plus d'une décennie plus tard, elle ne veut toujours pas rentrer.
Il y a de la peur, il y a un manque de confiance, il y a la situation économique. Là, c'est sécurisé, les autres nous rassurent. Mais peut-être que cette mentalité ne va durer qu'un temps, mais qu'à la fin, rien n'aura changé.
Elle craint que les violences reprennent un jour, mais ajoute en souriant qu'une paix durable n'est pas complètement impossible. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad, RFI.
Ce reportage international à retrouver, comme tous les autres, sur l'application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en Peace.
Et les principaux titres de ce dimanche 13 avril 2025. Second tour de l'élection présidentielle en Équateur. Près de 14 millions d'électeurs convoqués aux urnes dans ce pays d'Amérique du Sud. Le candidat de droite, Daniel Noboa, fait face à son adversaire de gauche, Luisa González. Au premier tour, seul 0,17% les séparait. Les bureaux de vote ouvrent à midi. En temps universel, le principal enjeu, la recrudescence de la violence. L'Équateur qui affiche le pire taux d'homicide du continent américain. Les deux candidats promettent de lutter contre, mais pas de la même manière. La candidate de gauche évoquant des mesures qui prendraient en compte les droits humains. L'administration américaine assouplit à nouveau ses hausses douanières. Finalement, les produits électroniques, smartphones, ordinateurs ne seront pas surtaxés, y compris quand ils viennent de Chine. Ils devraient l'être à 145%. Les produits exonérés représentent plus de 20% des importations américaines depuis la Chine, selon des données des douanes américaines. Un pas en avant pour Washington, une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel, dit Téhéran. Première rencontre de haut niveau entre États-Unis et Iran hier à Oman. Elle s'est conclue sans avancée signalée sur la question du nucléaire iranien, mais avec la promesse de se revoir dès samedi prochain. Et puis les sports, l'enfer du Nord aujourd'hui, Paris-Roubaix, 260 km et des pavés, beaucoup de pavés. Un duel attendu, Mathieu Van Der Poel, double tenant du titre face au champion du monde Tadej Pogacar. L'érythréen Binyam Girmay espère tirer son épingle du jeu en cas d'arrivée au sprint.
RFI à Kigali, 91.9 FM.
Faciliter le travail des vétérinaires et des éleveurs, c'est le défi que tente de relever quotidiennement Zipline, cette entreprise déjà connue pour ses services de livraison par drone de poches de sang et de médicaments dans les centres de santé du Rwanda. Mais ses responsables ne s'arrêtent pas là et ont lancé depuis 2 ans un programme destiné au secteur animal. Cette fois, leurs drones sont utilisés pour distribuer aux professionnels les vaccins et inséminations pour les élevages, bovins comme porcins. Lucie Mouillot s'est rendue dans le centre de Zipline à Mwanga, non loin de Kigali. Reportage.
Il y a une commande qui vient d'arriver à notre centre d'appel.
Dans la pharmacie de Zipline, les commandes de vétérinaires et éleveurs arrivent presque en continu. Pierre Kaitana est le directeur de l'entreprise au Rwanda.
C'est quelqu'un qui demande l'insémination artificielle, mais il a demandé spécifiquement une race sud-africaine.
En quelques instants, tout le matériel est placé dans un carton doté d'un parachute. Les préparateurs sonnent une cloche. À l'extérieur, le pilote récupère le colis.
Il va scanner le code QR sur le paquet. Comme ça, la drone sait où elle doit aller. Nos drones sont autonomes. C'est beaucoup d'intelligence artificielle aussi parce que quand la drone quitte Mwanga, ça doit arriver le plus tôt possible. Et au retour, ça doit faire des manœuvres pour se retrouver à la maison.
Des drones aux allures d'avions miniatures sont lancés presque chaque minute. Avec une vitesse de plus de 100 km/h, ils atteignent les centres les plus reculés du pays bien plus rapidement que n'importe quel convoi.
Le point le plus éloigné de notre zipline, c'est Mibirizi. Par exemple, quitter Kigali, aller à Mibirizi, ça vous prend 7 heures à 8 heures de route. Mais nous, on quitte ici de Mwanga, on leur fournit des produits en moins de 40 minutes.
À quelques kilomètres dans son élevage porcin, Ernestine Mouawenimana marche le long des enclos vers sa dernière portée, née il y a quelques semaines.
Quand on voit qu'une femelle est en chaleur, on place une commande pour que les produits arrivent. On peut même choisir la race.
Les drones lâchent désormais leurs colis à proximité, permettant d'éviter les retards ou les trajets posant le risque de dégradation des produits par la rupture de la chaîne du froid.
On inséminait parfois une femelle après sa période de fertilité à cause des retards. Ça ne marchait pas ou on avait des morts-nés. Maintenant, on est livré à temps. Les truies sont inséminées au bon moment et nous n'avons plus ces problèmes comme avant.
Au Rwanda, près de 40% des activités de Zipline concernent les services vétérinaires. Depuis 2022, l'entreprise estime avoir contribué à la naissance de près de 70 000 porcelets. Lucie Mouillot, de retour de Mwanga, RFI.
RFI Matin. Et le dimanche sur RFI, c'est également le jour des deux têtes d'affiche de la semaine de Denis Epoté. Aujourd'hui, un Sénégalais et une Marocaine à l'honneur. Pierre Boudias était en ligne avec Denis Epoté.
Bonjour Denise.
Bonjour Pierre.
Alors votre première tête d'affiche est originaire du Sénégal, diplômée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'HEC Maroc. Nawal Dine Kolawole Touré possède des Master 2 en génie logiciel, business, intelligence, stratégie data et intelligence artificielle à la tête du département de la technologie de l'information et de l'innovation d'une entreprise de téléphonie mobile. Il crée des solutions innovantes et disruptives dans l'écosystème de la fintech avec un accent particulier sur l'inclusion financière.
L'XP est un portail 360 degrés destiné à répondre aux besoins des TPE et des entreprises plus grandes pour simplifier et sécuriser les opérations financières, en particulier celles liées à l'utilisation du cash. Cette solution de collecte numérique permet une gestion des flux financiers plus sécurisée en améliorant leur efficacité opérationnelle. Grâce à des partenariats noués avec des startups locales du secteur de la fintech, FlexPay propose des nano-prêts pour les particuliers et des micro-crédits pour les PME dans le but de promouvoir l'inclusion financière. Pour les propriétaires de petites échoppes, de quartiers exclus du système bancaire, l'innovation permet également d'accéder à des solutions de paiement modernes et sécurisées. Grâce à l'intelligence artificielle, la solution évalue la solvabilité des emprunteurs et leur offre un accès facile au crédit. ce qui stimule la croissance locale. Les autres innovations qui mobilisent Nawaldin Kolaole Touré sont le Bank Keyboard, une fonctionnalité permettant d'effectuer des transactions financières depuis une conversation de chat, et AML, une solution de lutte contre le blanchiment d'argent pour garantir la conformité aux régulations internationales et renforcer la sécurité des transactions.
Alors Denise, votre seconde tête d'affiche est originaire du Maroc, ingénieur en informatique diplômé de l'école polytechnique d'Agadir, Sokaina Sayouri possède également un master en business intelligence obtenu à l'université de Lorraine. Elle a fondé Schoolify, une plateforme dédiée à la gestion et à la digitalisation des établissements scolaires. Elle compte 600 000 utilisateurs en Afrique, en Europe et au Canada.
Créer des solutions innovantes pour le secteur éducatif, c'est l'objectif que s'est fixé Sokaina Sayouri. Après des années d'expérience en qualité d'intégrateur de bases de données au sein de grandes entreprises. Conçue pour simplifier l'administration des écoles, la plateforme Schoolify offre des outils permettant de gérer les inscriptions, les emplois du temps, les absences, les notes, ainsi que la communication entre enseignants, élèves et parents. Les établissements scolaires peuvent automatiser les tâches administratives, améliorer leur efficacité, offrir une plateforme d'e-learning permettant aux élèves d'accéder aux cours à distance et de suivre le transport scolaire avec un système de géolocalisation et des notifications instantanées. Schoolify contribue à lutter contre le décrochage scolaire, en particulier celui des filles, en leur facilitant l'accès à l'apprentissage numérique. Schoolify est la première start-up éducative en Afrique à intégrer la blockchain, garantissant une sécurité et une transparence optimale dans la gestion des données scolaires. En collaborant avec des écoles et gouvernements, elle garantit également l'inclusion des personnes handicapées. L'originalité de son impact se trouve dans la capacité à mêler innovation, responsabilité sociale et développement inclusif dans un contexte souvent négligé.
Denise Epoté et ses têtes d'affiche au micro de Pierre Boudias. h 56 ici à Paris. Dans un instant, le retour de l'actualité internationale avec Martin Guez. Avant cela, 100% création. Maria Afonso part ce dimanche à la rencontre d'Olivia Mangue, designeuse de mode. Elle a créé Moa Création, sa propre marque. La dernière création de la Gabonaise, élégance, résiliente, aux teintes de blanc, noir, rose et orange, symbolise l'espoir, la force et la détermination, notamment dans la lutte contre le cancer. C'est le portrait d'Olivia Mangue.
Je suis vraiment à fond dans tout ce qui est mode. Ça prend vraiment une place importante parce que la création, ça passe avant tout.
Olivia Mangue, designer de mode et fondatrice de la marque Moa Création.
Moa, c'est mon nom et mes deux prénoms, donc Mangue, Olivia Apolline. Et ça veut aussi dire modèle off africain.
Olivia Mangue est née à Libreville, au Gabon. Elle a exercé en entreprise dans le domaine des ressources humaines. Mais passionnée par la mode dès son enfance et le mannequinat à son adolescence, quand elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle choisit de vivre de sa passion, la mode. La créatrice gabonaise, installée à Brest, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, a été influencée par sa mère, couturière. En autodidacte, Olivia Mangue explore la couture et développe ses compétences. Elle s'inspire des années 80 et propose l'union de l'élégance africaine et européenne. Gabon, Côte d'Ivoire, France, Sénégal ou Ghana, la créatrice gabonaise veut faire connaître son travail au plus grand nombre, mais c'est à Abidjan qu'elle a ouvert son atelier.
Je travaille beaucoup avec les artisans locaux, notamment en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de bouche à oreille parce que c'est un peu compliqué de tomber sur des bons artisans. J'ai plutôt un bon réseau au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est pas mon pays, c'est vrai. Maintenant, je suis en train d'essayer de m'orienter un peu à l'étranger, notamment en Turquie. Là-bas aussi, je confectionne des tissus directement avec les designers et après, c'est expédié en Côte d'Ivoire en atelier et c'est fait sur place.
Olivia Mangue aspire à former de nouveaux talents en Afrique en maintenant des standards de qualité élevés et à faire évoluer l'industrie de la mode sur le continent.
Si tu acquiers quelque chose de bon, c'est mieux aussi de l'enseigner à d'autres personnes. C'est vrai que j'ai Moa Création, mais à la longue, avec les formations que je ferai, parce que je vais en faire d'autres, ce serait justement pour former ces jeunes-là en Afrique pour qu'on puisse arriver à un niveau où on peut avoir des usines de fabrication comme en Turquie ou en Chine. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y en a presque pas. Faire un vêtement prêt à porter haut de gamme, Ça demande une rigueur et définition différente qu'un vêtement prêt à porter que tu vas retrouver dans la moindre boutique du quartier. Cette culture-là, on l'a pas encore vraiment en Afrique. Et moi, mon objectif, ce sera à la longue de former ces personnes-là pour que on puisse aussi se retrouver un jour sur des tapis rouges à Paris ou ailleurs dans le monde.
Retrouvez l'univers d'Olivia Manguet sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Il est 8h59 ici à Paris. Dans une minute, le journal de Martin Guèze.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Dans notre série du mois d'avril sur l'histoire des grands fleuves d'Afrique, halte au cœur du fleuve Congo, puissant et indomptable, source de fécondité et de puissance. Du royaume du Congo à ses sacralités modernes, en passant par les partitions coloniales, portrait d'un fleuve qui nourrit la vie et inspire les artistes.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Entre Tunis, Hammamet et Alger, dans la petite cuisine inondée de soleil, la parole des femmes se déploie intensément. Parfois surgissent des instants mutiques. Pendant cette courte trêve, un autre langage s'installe, permis par la proximité et l'intimité de la cuisine. Les mains dans la semoule, le parfum de la fleur d'oranger, ancrage tout à l'heure à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence de Navi sur RFI.